Bonjour tout le monde, ici Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Je tiens à vous rappeler que l'objectif de cette balado est purement informatif et ne remplace en aucun cas un avis ou un diagnostic d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Si vous souhaitez de l'information supplémentaire et si vous avez besoin d'aide, je vous invite à chercher une personne pleinement qualifiée qui pourra vous aider. Allô tout le monde et bienvenue à cette première balado. Je suis contente que vous soyez là et pas mal excitée de vous présenter ma première invitée, Patricia Spanz. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé du cerveau, plus précisément des façons de prévenir l'Alzheimer ou même d'améliorer les facultés cognitives de ceux et celles qui ont déjà reçu un diagnostic. Avant de vous présenter Patricia, laissez-moi vous expliquer pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident d'auto. Le médecin a diagnostiqué une commotion cérébrale et 2 entorses cervicales. Dans l'année précédant l'accident, j'avais eu 3 autres accidents. Rien de tragique en soi dans ces accidents, sauf l'accumulation. Je me suis dit que c'était peut-être un signal qu'il était temps que je prenne soin de mon cerveau. Dans les mois qui ont suivi mon accident d'auto, j'ai eu des moments de panique. Mes facultés cognitives ont décliné. J'avais de la misère à aligner 2 phrases, ma mémoire flanchait à tout moment, ma concentration était à son plus bas, je dormais peu et mal, et j'étais incapable de lire plus de 10 minutes d'affilée et rien qui demande une trop grande concentration. Évidemment, je craignais le pire, l'Alzheimer. Et oui, les personnes qui ont eu des commotions cérébrales sont plus à risque de développer l'Alzheimer. Jusqu'à tout récemment, le monde médical tenait le discours qu'on ne pouvait ni prévenir ni guérir l'Alzheimer, qu'il n'existe aucun médicament qui procure des résultats probants. Or, ce discours ne tient plus et c'est tant mieux. Aux États-Unis, il y a tout un courant de médecins et de spécialistes de la santé, du cerveau, qui nous disent exactement le contraire. Vous pouvez prévenir l'Alzheimer, vous pouvez même inverser le déclin cognitif. Vous n'êtes plus obligé de croire que vous êtes à la merci du destin et de votre génétique. Il y a de l'espoir. Le Dr. Bredesen est à la tête de ce courant de médecins qui pense l'Alzheimer autrement. Autour de lui et un peu partout dans le monde, lui et son équipe forment des médecins, des spécialistes et des coachs pour accompagner les femmes et les hommes qui souffrent de l'Alzheimer ou qui commencent à voir leurs facultés cognitives diminuer. Avec nous en studio aujourd'hui, Patricia Spanz, qui est une de ces coachs, à notre connaissance la seule au Québec, ou tout au moins la première, qui a suivi la formation du Dr. Bredesen. Patricia a suivi de nombreuses autres formations comme coach en santé, dont celle de la Health Coach Institute. Patricia a toujours été passionnée par la santé. Elle en a maintenant fait sa mission. Bonjour Patricia, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci beaucoup Eugénie.
Avant d'être coach en santé, toi tu as travaillé dans le monde corporatif. Quel a été le déclic qui t'a amené à changer de trajectoire?
Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais très, très fatiguée, puis il y avait un médecin qui m'avait beaucoup aidée, qui m'avait demandé de changer mon mode de vie, puis j'avais vu des résultats spectaculaires. J'étais à l'université à l'époque, j'avais vraiment changé, puis mon énergie, tout ça allait bien. Fait que ça a comme ouvert une porte, un intérêt, finalement, à voir tout ce que je pouvais faire au niveau mode de vie. De fil en aiguille, toute ma jeunesse et tout ça, j'ai toujours lu beaucoup sur l'alimentation, j'ai toujours été passionnée par ces sujets-là. Puis éventuellement, quand je travaillais dans le monde corpo, les gens autour de moi, à l'école, au travail, me posaient des questions, commençaient de plus en plus à me demander qu'est-ce que je peux faire pour changer mon alimentation, j'aimerais ça moi aussi faire un virage, puis venaient me demander des conseils. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai dit, ah, il y a peut-être, j'ai peut-être une opportunité ou il y a un besoin, en fait, il y a un besoin pour les gens de vraiment pouvoir faire un changement, mais de savoir comment le faire puis d'être accompagné pour pouvoir le faire.
Fait que c'est à ce moment-là que tu as quitté le monde corporatif et tu as commencé ta carrière comme coach en santé.
Exactement. Donc, j'ai quitté le monde corporatif. J'ai découvert le coaching santé aux États-Unis, qui est un métier en pleine croissance, qui vient un petit peu combler. Là, oui, les gens veulent faire des changements, mais c'est comment faire un changement. C'est difficile, c'est pas facile. Souvent, on le sait, là, des résolutions de nouvel an, des diètes et tout ça. On veut faire le changement, mais on lâche en cours de route. Fait que j'ai découvert ça. J'ai fait plusieurs formations pour pouvoir devenir coach santé.
D'où vient ton intérêt pour l'Alzheimer, le programme RECODE ou RECODE en français du Dr Bredesen? Comment as-tu entendu parler de lui?
Bien, moi, ça vient de mon histoire familiale. Déjà, bon, j'étais coach santé, toutes les habitudes de vie, c'est important pour moi. Je commençais à travailler, à partager toutes ces habitudes-là avec les gens. Et le sujet d'Alzheimer, c'est un sujet qui me touche personnellement beaucoup. Ma mère est décédée en 2016 des suites de la maladie. Et mon père est en ce moment où on se parle à l'hôpital en phase très, très avancée de la maladie. Donc, quand j'ai découvert ce livre-là, La fin d'Alzheimer, puis j'ai des piles de livres chez moi là, sur toutes sortes de sujets, bon, bien, je l'avais acheté il y a un certain temps. Puis à un moment donné, bien, j'ai dit, OK, je vais lire le livre, voir qu'est-ce qu'on recommande. Puis c'était dans le fond, dans l'objectif, c'était pour moi, pour mes parents, pour ma famille, puis aussi pour mes enfants, pour pouvoir déjà faire un mode de vie qui pourrait peut-être aider au niveau de la prévention.
Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai lu ce livre-là, « La fin d'Alzheimer » du Dr Bredesen, j'ai comme senti une grande bouffée d'espoir. Parce que le discours qu'on nous tient depuis tout le temps, c'est qu'il n'y a rien à faire contre l'Alzheimer. On ne peut pas le prévenir, puis on ne peut pas l'inverser non plus. Alors, je ne sais pas si ça te fait le même effet.
Oui, tout à fait. Moi, je m'attendais à lire, tu sais, j'ai lu beaucoup, évidemment, comme je dis, avec mon historique sur tout ce qu'on peut faire pour aider au niveau de la mémoire, l'Alzheimer, pour essayer d'aider ma mère à l'époque et mon père par la suite, et aussi pour moi. Puis, c'est toujours, tu sais, bon, manger bien, bon, mais il y a des recommandations, mais sans plus, puis c'est correct, puis c'est parfait. Mais là, quand j'ai vu à quel point la science était avancée, à quel point la recherche était avancée, qu'on travaillait déjà avec des milliers de patients aux États-Unis, puis que c'était un programme vraiment rigoureux, complet, j'ai vu enfin l'espoir, puis je me suis dit, il faut partager cette information-là.
Avant d'entrer dans les détails du protocole de RECODE du Dr Bredesen, j'aimerais ça que tu nous donnes des exemples de personnes pour qui ça a fonctionné.
Dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples là, aux États-Unis, tout ça. Au Québec, on a commencé il y a environ 6 mois à accueillir des patients ici. Donc, les premiers, tu sais, on parle de 3 à 6 mois là, avant de commencer à avoir des améliorations au niveau des capacités des gens. Mais par exemple, une des premières avec qui j'ai travaillé, c'est une dame qui était quand même assez avancée dans la maladie. Puis elle, les gens maintenant, ce qu'ils disent, c'est qu'elle avait, vous savez, souvent les gens qui ont l'Alzheimer, ils ont comme un visage, il n'y a plus d'expression dans le visage. Mais là, elle a retrouvé la joie de vivre, l'expression. Elle n'osait plus appeler les amis, socialiser, un peu par gêne, puis un peu aussi pour ne plus savoir comment parler ou comment participer à une discussion. Maintenant, elle recommence à sortir, elle est partie en voyage. Donc, elle a vraiment retrouvé une qualité de vie, une joie de vivre à travers le protocole. Donc, ça, c'est vraiment une belle amélioration.
C'est inspirant, ces histoires-là. Dans le livre du Dr Bredesen, il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Donc, c'est pas un cas isolé, ce que tu me racontes là. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi le protocole et pour qui ça fait une grande différence.
Oui, tout à fait. Aux États-Unis, bien, ils ont commencé en 2012, là, fait que ça fait déjà 7 ans, fait que c'est sûr qu'ils ont plus une longueur d'avance sur nous.
Tu es la seule coach au Québec à offrir ce programme-là.
Donc, oui, je suis la seule coach au Québec, pour l'instant, puis je suis la première, en fait. Je suis la première qui a été certifiée parce que quand j'ai lu le livre, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi un profond désir d'offrir la possibilité que ça soit, qu'on puisse le faire, d'offrir ça au Québec. J'ai approché différentes personnes et tout. Puis, donc, j'étais vraiment la première. La pionnière. Et c'est pour ça que je suis ici aussi, puis je fais autant des conférences, tout ça, pour en parler, pour que les. Tu sais, puis je demande aux gens de partager l'information, il faut que les gens le sachent.
C'est un bon point, partager l'information, parce que les statistiques sur l'Alzheimer que j'ai prises sur ton site web et qui proviennent de la Société Alzheimer du Québec sont vraiment alarmantes. On parle de 750 000 Canadiens qui sont touchés par l'Alzheimer ou d'autres maladies cognitives. C'est beaucoup. Les coûts pour le système de santé, bien sûr, ils sont faramineux. Et ça, c'est sans compter le coût humain de cette terrible maladie et la souffrance qui vient avec. D'ici 2020, ça va doubler pour atteindre 1,5 million de Canadiens. Moi, juste de lire ces chiffres-là, ça me donne des frissons. Les femmes sont plus durement touchées que les hommes. Aussi, 72 % des malades de l'Alzheimer sont des femmes. J'ai entendu un des spécialistes dire que de nos jours, avec toute l'information qu'on a, l'Alzheimer devrait maintenant être une maladie rare, ne devrait plus avoir ce potentiel épidémique qu'on connaît. Tu y crois?
Moi, c'est sûr que j'y crois. J'y crois. Puis je travaille au quotidien avec des gens, puis je vois des améliorations chez les gens. Je parle au quotidien ou je suis en contact au quotidien avec Dr. Bredesen et eux, ils ont des milliers de personnes avec qui ils travaillent. Donc oui, c'est certain que j'y crois. C'est évident.
On arrive maintenant au fameux protocole WeCode du Dr. Bredesen et les 8 facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Est-ce que tu peux nous présenter les grandes lignes de ce protocole-là et après ça, on va y aller étape par étape?
Oui, donc le Dr. Bredesen, au début de sa carrière, quand il a commencé comme neurologue, il s'est dit « c'est pas vrai que je vais dire toute ma vie, dans le fond, aux gens, il n'y a rien à faire », donc il s'est penché vers la recherche, puis un petit peu comme toute la recherche sur la maladie d'Alzheimer, il cherchait la pilule unique, c'est la solution monothérapie pour arriver à une solution. Puis à un moment donné, avec les recherches, il s'est aperçu que c'était peut-être pas la bonne approche. Donc il a commencé à regarder quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à ce que le cerveau décline. Jusqu'à date, évidemment, la recherche continue. Hein, ça fait quelques années, mais là, de plus en plus, on continue la recherche sur le sujet. Mais il a identifié environ 50 facteurs qui peuvent mener à un déclin.
Donc, c'est multifactoriel.
C'est multifactoriel et c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, quand on commence à avoir des symptômes chez un individu, ça fait environ 15 à 20 ans qu'il y a un déséquilibre sur 15 à 20 facteurs. Par contre, d'une personne à l'autre, ce n'est pas nécessairement les mêmes facteurs. Et donc, c'est ça le travail, c'est de voir chez une personne versus l'autre sur quoi travailler.
Bon, afin d'être le plus concret possible pour nos auditeurs, j'aimerais ça maintenant qu'on regarde et qu'on décortique chacun des 8 facteurs et qu'on simplifie le tout afin de rendre ça accessible. Le premier facteur, c'est l'alimentation. Ce n'est pas une grande surprise, on en parle partout, tout le temps. Quel conseil tu pourrais donner dans les grandes lignes aux personnes qui souhaitent prévenir l'Alzheimer ou encore améliorer leur santé cognitive?
Oui, donc au niveau de l'alimentation, effectivement, c'est pas une grande surprise. Hein, quand on travaille sur le mode de vie, l'alimentation est au cœur de tout ça. Donc la première chose, c'est vraiment le sucre. Donc réduire le sucre sous toutes ses formes, le sucre liquide et aussi les féculents, les pains, les riz et tout ça. Baisser le taux de sucre dans le sang.
Est-ce que ça comprend les fruits aussi quand on parle de baisser le sucre?
Bien, c'est sûr qu'on va privilégier des fruits par rapport à un jus de fruits. On peut regarder dans les fruits, évidemment, on le sait tous, les petits fruits, les baies, les bleuets, etc. Il y a moins de sucre que, par exemple, un ananas. Donc, on peut privilégier des fruits moins sucrés. Ceci étant dit, déjà de manger des fruits, c'est mieux que du gâteau. T'sais? Donc, ça dépend comparé à quoi.
Donc, le sucre, premier facteur. Deuxième
facteur, c'est manger des aliments de qualité. Donc, si possible, bio. Il y a des études qui existent où on peut savoir lesquels les plus pollués ou pas, mais aussi les aliments le moins transformés que possible, le plus près de ce qui se trouve dans la nature.
Donc, le sucre, la qualité des aliments, est-ce que le gluten, les produits laitiers, ça se classe comment dans le protocole Bredesen?
Au niveau du protocole Bredesen, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un lien. Le Dr. Bredesen a catégorisé en différents types de maladies. Donc, l'inflammation joue un gros rôle. Et chez la majorité des gens, le gluten et les produits laitiers sont inflammatoires. Donc, on essaie de réduire au maximum le gluten et les produits laitiers. Autrement, au niveau de l'alimentation, puis on le sait tous, mais après, c'est de le faire, c'est évidemment de manger beaucoup de fruits et légumes. Donc, c'est vraiment d'augmenter la quantité de fruits et légumes dans notre assiette. Puis le guide canadien alimentaire en parle bien, là, le nouveau guide, où on montre vraiment 50 % de notre assiette qui devrait être les légumes. Donc, c'est vraiment une grande composante.
Ça, je pense que ça semble assez universel. Mm-hmm. Peu importe le problème, le type de diète ou l'enjeu, manger beaucoup de légumes et de fruits, c'est universel comme conseil.
Tout à fait. Après, le défi, c'est de le mettre dans notre assiette à tous les jours.
Le deuxième facteur du protocole Bredesen, ça non plus, c'est pas une surprise, c'est l'exercice. J'écoutais récemment le Dr. Perlmutter, qui est un autre grand spécialiste de l'Alzheimer, qui, lui, nous expliquait que faire de l'exercice, c'est la meilleure façon de créer de nouvelles cellules dans le cerveau, donc de remplacer les neurones qui sont mortes. Il appelle ça la neurogenèse. La question que j'ai à te poser, l'exercice, combien, comment, quelle quantité, quelle intensité, c'est quoi la suggestion?
Fait que moi, je dis toujours à mes clients, premièrement, l'étape 1, c'est de bouger le plus que possible sous n'importe quelle forme. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième étape, quand on veut aller encore plus loin, l'exercice qui est le plus bénéfique, selon Dr. Bredesen, pour le cerveau, c'est ce qu'on appelle la haute intensité ou Tabata. C'est-à-dire 20 secondes où on bouge en très, très haute intensité, 10 secondes de pause. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 4 minutes, on a déjà les bienfaits pour notre cerveau qui commencent. Et à partir de 7 minutes, on a le maximum de bienfaits pour le cerveau. Ça ne veut pas dire de ne pas en faire plus pour tous les autres bénéfices là, de l'exercice. Mais ce qui permet de faire en court laps de temps un exercice physique qui est excellent pour le cerveau. Et dans un monde idéal, le faire 4-5 fois par semaine, le faire plusieurs fois.
Et pour la personne qui est sédentaire depuis de nombreuses années, parce que c'est souvent un cercle vicieux, la maladie, on bouge moins parce qu'on est malade, puis on est malade parce qu'on bouge moins. Pour commencer, là, parce que 7 minutes, c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui bouge pas, qui est sédentaire depuis longtemps, ça peut sembler beaucoup. C'est quoi le premier pas?
Le premier pas, c'est de bouger. Moi, je dis toujours à mes clients, même si vous faites une minute, c'est parfait, une minute et demie. Puis si vous ne le faites pas en haute intensité, mais en moyenne intensité. Donc, le but, c'est juste de bouger, vraiment de bouger. Puis encore mieux si on est dehors, à l'extérieur, puis on a tous les bénéfices aussi du soleil, de l'air frais, puis la nature, c'est encore mieux.
Troisième facteur, l'entraînement du cerveau. Parmi les facteurs de risque de développer l'Alzheimer, je lisais aussi récemment qu'on retrouve la retraite. Les gens qui prennent leur retraite, s'ils n'ont pas prévu autre chose de stimulant pour après, sont plus à risque que les autres de développer l'Alzheimer. Donc, c'est un peu un épée de Damoclès. Les gens veulent partir à la retraite, mais en même temps, il y a quand même un risque si on n'a pas prévu la chose. Quand tu parles d'entraînement du cerveau, ça ressemble à quoi, par exemple? Des mots croisés, du sudoku?
Bien, c'est sûr qu'on a tout entendu, tu sais, le sudoku, les mots croisés, le Scrabble, que je parlais à un ami aujourd'hui. Donc, tout ce qui fait travailler notre cerveau est bénéfique. La musique. Donc, encore là, si on ne fait rien, le mieux, c'est de faire quelque chose. Par contre, dans le protocole Bredesen, le Dr. Bredesen, il y a une équipe de neurologues qui travaille avec lui, dans une équipe avec eux, qui ont développé un logiciel qui s'appelle BrainHQ, qui est disponible sur Internet, et donc qui a vraiment été développé pour faire travailler les ondes du cerveau et qui mesure où on est pour aller nous donner les exercices bien ciblés. Donc là, c'est encore là une étape de plus. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Si on n'aime pas ça, on est mieux de faire des sudoku que pas faire les jeux. Mais si on veut, on peut vraiment aller travailler avec...
Donc, ça s'appelle BrainHQ.
BrainHQ, oui.
Apprendre une nouvelle langue, est-ce que ça fait partie des choses qui sont bonnes pour le cerveau?
Tout à fait. Apprendre n'importe quoi de nouveau, cuisiner des recettes, tout ce qui fait travailler notre cerveau, tout à fait. Donc, tout est bénéfique.
Quatrième facteur, on retrouve la gestion du stress, le fameux stress, plus facile à dire qu'à faire. Le stress, avec les hauts taux de cortisol qui viennent avec, sont particulièrement néfastes pour le cerveau, donc j'imagine que c'est pour ça qu'il faut apprendre à bien le gérer. C'est quoi les meilleures façons de gérer le stress?
Il y a toutes sortes de façons de gérer le stress, mais tu sais, ça passe par la joie, par se faire plaisir, par socialiser, surtout quand on parle d'Alzheimer. On parle évidemment de personnes d'un certain âge, donc des fois, c'est des gens qui ont tendance à socialiser moins. J'ai justement un client à qui je parlais aujourd'hui qui a commencé sur le protocole il y a quelques semaines seulement. Puis déjà, son épouse, elle me disait qu'elle voyait une amélioration et tout le monde autour de lui voyait une amélioration. Et lui, ce qu'il a fait pour commencer, c'est vraiment de retourner à faire du bowling, ressortir avec les amis et tout ça. Puis elle voit énormément de différence. Donc, tout ce qu'on connaît pour gérer notre stress, se faire plaisir et tout ça, tout est bénéfique.
La méditation.
C'est sûr.
La respiration, le yoga, donc tout ce qui ralentit et qui ramène vers l'intérieur.
Oui, tout à fait.
Cinquièmement, on arrive au sommeil et au repos. Ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça demande souvent de la patience. La première étape est d'identifier ce qui nous empêche de bien nous reposer, d'après ce que j'ai compris du Dr. Bredesen. Quelles sont les recommandations du Dr. Bredesen et comment on fait pour mettre ça en place? C'est quoi le repos et le sommeil? Quelle formule propose-t-il?
Bien, c'est sûr que la première étape, tu sais, quand on travaille avec des gens, déjà, si c'est des gens qui ont des troubles de sommeil, bien, c'est une des premières choses sur lesquelles on va travailler. Si quelqu'un a un trouble de sommeil, puis là, ça prend des experts. Tu sais, il y a plein d'expertises, d'analyses qui peuvent être faites pour trouver les causes. Est-ce que c'est de l'apnée du sommeil ou bon, de travailler avec les experts pour la portion sommeil. Si le sommeil va bien, mais il y a quand même le repos. Puis si on en parlait avec la gestion de stress, bien, tout ce qui est méditation, respiration, cohérence cardiaque, qui est un outil largement sous-estimé, accessible à tous, gratuit, qui nous permet instantanément, là, dans le fond, de passer du mode stressé au mode détendu, dans le fond.
On peut mettre ça sur notre téléphone. Il y a une petite app qui est gratuite, mm-hmm. Oui. Puis on fait ça 3 fois par jour, 5 minutes. C'est tout simple et ça fonctionne très bien.
Oui, ça, c'est vraiment le meilleur outil. Moi, tous mes clients, ils ont Respire Relax sur leur téléphone, s'ils ont un téléphone intelligent, bien évidemment.
Oui, parce que des fois, le téléphone intelligent fait partie du problème qui empêche de dormir aussi.
Exactement.
Donc, je reviens au sommeil. Les gens qui ont des problèmes ou des enjeux de sommeil, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce que tu les accompagnes concrètement?
Bien, c'est sûr que dans ces cas-là, on travaille avec une équipe. Donc, je vais les accompagner dans le sens de la méditation, le repos, regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau habitude de vie pour aider le sommeil, pour éteindre nos écrans 1 heure avant de se coucher. Toutes ces choses-là. Après, c'est sûr que je vais recommander aux gens, s'ils n'ont pas fait, de faire les tests, de voir avec leur médecin, avec leur spécialiste pour les tests d'apnée du sommeil et de creuser s'il y a quelque chose là, à regarder au niveau du sommeil.
Je pense qu'ici, ce serait important de préciser que toi, tu ne travailles pas seul, tu ne travailles pas en bulle fermée, tu travailles avec une équipe autour de toi.
Exactement. Donc moi, je travaille avec une équipe de médecins, d'infirmières qui sont toutes spécialisées dans le protocole. On est une belle équipe qui travaille tous ensemble, aussi avec des naturopathes, pour vraiment offrir une approche complète sur le protocole du début à la fin.
Merci. Le sixième morceau du puzzle, c'est les suppléments. Lesquels et pourquoi? Ça, c'est pas facile de se démêler là-dedans. Il y a tellement de suppléments, il y a tellement de vitamines, on entend tellement de choses. Il y a des nouveautés, il y a de la recherche, il y a des produits surprenants. Toutefois, il faut faire attention. Comment on fait pour s'y démêler là-dedans? J'imagine que ça fait partie de ta job à toi d'accompagner les gens dans le choix des suppléments ou c'est la naturopathe?
C'est plus la naturopathe. Dans le cadre du protocole, dans le cadre du protocole Bredesen, quand les gens reçoivent, ils font une série de prises de sang, puis après ça, on produit un rapport qui est produit par le docteur Bredesen, qui donne les recommandations. Et eux, ils recommandent les suppléments en fonction des résultats des prélèvements sanguins.
Donc, c'est personnalisé.
Oui. Donc, on part de cette liste-là, puis après ça, à partir de la liste qui est vraiment personnalisée, effectivement, en fonction des résultats de cet individu.
Parmi les plus fréquents ou les plus universels pour ceux qui ont des problèmes de santé cognitive, ouais, j'imagine que les oméga-3, la B12, la vitamine D...
Exactement, tout à fait, exactement. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est quand on parle de suppléments, dans le fond, ce qu'on parle ici, c'est on veut aider notre cerveau, on veut le supporter dans sa démarche par rapport à un médicament qui est là pour traiter, soigner. Un supplément est juste là pour nous accompagner dans la démarche. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. En fait, dans le protocole, il y a une possibilité de 340 différents suppléments. Donc, c'est assez...
Il faut un grand budget.
c'est le potentiel. Donc, chaque individu n'a pas 340, mais il y a une possibilité de 340 selon les résultats de tous et chacun. Fait que c'est vraiment personnalisé d'une personne à l'autre. Mais oui, tout ce qui est vitamine B, vitamine D, et tout ça, c'est des choses qui reviennent. Évidemment, les oméga-3.
On arrive au septième facteur dont il faut tenir compte, c'est la toxicité. la première fois que je t'ai rencontrée, je te demandais comment on fait pour savoir si on est toxique ou pas. Tu m'as répondu, mais moi, je pars du principe que tout le monde est toxique. comment on fait pour savoir si on est toxique ou pas?
C'est sûr que dans le quelqu'un qui fait le protocole dans la série de prélèvement sanguin, on va regarder différents éléments pour voir le taux de toxicité. Puis dans le fond, le Dr. Bredesen, quand il catégorise les gens, parce que lui catégorise les gens selon... Lui, ce qu'il dit, c'est que la maladie d'Alzheimer peut avoir plusieurs différentes causes. Et en fait, on veut travailler avec les causes, donc les huit éléments. Donc, avec le rapport, on va savoir, là, Dr. Bredesen, dans le rapport, il va catégoriser les gens, puis selon les différents types d'Alzheimer que lui a définis. Et quelqu'un qui a la toxicité en haut, bien là, c'est sûr qu'on travaille de façon beaucoup plus poussée au niveau de la toxicité. Donc, on sait dans ce cas-là que la personne, c'est son facteur numéro un. Donc, c'est son groupe de facteurs. On va regarder dans le détail après. Mais les sources de toxicité, sont en 2019, elles sont...
Infinies.
Elles sont infinies et partout. C'est sûr qu'à la base, avec tous les clients, comme on disait, je vais déjà dire aux gens, ben qu'est-ce qu'on met sur la peau, d'essayer de mettre quelque chose, tu sais, des produits cosmétiques moins toxiques, ce qu'on mange, essayer de manger bio, la qualité de l'eau qu'on boit, la qualité de l'air dans notre maison. Donc, il y a des choses de base qu'on peut faire. Après, est-ce qu'il y a de la... Tu sais, on peut creuser dans la maison, est-ce qu'il y a de la moisissure? On peut aller loin, mais déjà, une première étape, c'est d'enlever tout ce qu'on... les produits nettoyants qu'on utilise aussi.
La dernière des étapes, c'est les carences nutritives, j'imagine. Comment est-ce qu'on fait pour les identifier? C'est encore avec les prises de sang?
Ça, c'est vraiment avec les prises de sang, puis avec le médecin qu'on regarde là, selon les résultats s'il y a des carences, parce que ce qu'on comprend, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que si on est carencé puis que notre cerveau est carencé, ben, c'est là qu'il y a plus de difficultés à fonctionner. En fait, ce que le Dr. Bredesen explique, selon son approche et toutes les années de recherche, c'est que finalement, le cerveau, quand on parle de déclin cognitif, c'est que, on le sait, le cerveau perd des capacités petit à petit, et c'est parce qu'il est de moins en il n'est pas suffisamment soutenu pour faire 100% de ce qu'il a à faire. Alors, il commence par laisser aller des choses qui sont moins prioritaires. La première chose souvent qui est observée comme capacité, c'est la perte d'odorat, même si on ne sait pas, là, mais d'habitude, c'est le premier symptôme des gens. Pourquoi? Bien, il n'y a personne qui meurt parce qu'ils n'ont pas d'odorat. Et petit à petit, si on ne nourrit pas bien le cerveau, bien, on continue à perdre des capacités. Alors, c'est là qu'en regardant les carences et en les adressant, que, par exemple, quelqu'un qui est carencé en vitamine D, bien, le médecin peut prescrire à ce moment-là de la vitamine D. Et ça va aider à soutenir le cerveau.
Le Dr. Bredesen fait partie de cette nouvelle vague de médecine qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Donc, il y a beaucoup de liens entre le microbiome et le cerveau. J'imagine que le Dr. Bredesen y réfère beaucoup aussi.
Tout à fait. Donc, même le Dr. Bredesen, quand il nous dit, si vous n'êtes pas sûr en partant avec un client, vous n'avez pas encore les prises de sang, les résultats et tout, et le rapport, bien, commencez par l'intestin, vous savez qu'il y a toujours du travail à faire. Là, on les a séparés, les éléments, mais évidemment, tout est interrelié, là.
Oui, tout est interrelié, ça. Oui, effectivement, tu fais bien de le préciser. Je parlais de médecine fonctionnelle, qui est un grand courant aux États-Unis, qui fait vraiment de grandes avancées scientifiques. Nous sommes dans un moment de l'histoire où c'est vraiment fascinant d'observer à quel point la médecine prend un autre envol. On arrive à une médecine personnalisée selon chaque personne. À notre disposition, on a plein de tests disponibles. J'aimerais ça que tu nous parles des tests que le protocole Bredesen nous suggère de passer pour avoir le profil, le big picture, comme on dit.
Fait que, effectivement, il y en a une multitude. Donc, au début, on a fait un gros travail avec le bureau du Dr. Bredesen. J'ai travaillé en étroite collaboration avec son équipe aux États-Unis pour dire, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Aux États-Unis, c'est coordonné par le bureau du Dr. Bredesen qui travaille avec des labos, donc c'est beaucoup plus simple. Mais ici, au Canada, c'est nous qui devions faire le travail. Donc, on a regardé à travers toute la série de tests et on a isolé ceux qui sont les tests prioritaires pour vraiment nous permettre d'identifier les causes principales. Donc, parmi les éléments, c'est lesquels qui sont en déséquilibre chez quelqu'un qu'on doit adresser. Donc, on a identifié une quarantaine de tests, par exemple le cholestérol, le taux de sucre dans le sang. Bon, des tests plus classiques, mais aussi des tests, il y en a qu'on envoie aux États-Unis, qu'on connaissait pas, là, qui étaient quand même plus difficiles à trouver au début. Donc, on a une série d'une quarantaine de tests, on produit le rapport, puis après ça, c'est à la discrétion du médecin de voir si on veut aller plus loin puis creuser plus.
À quoi ça ressemble l'accompagnement que tu offres aux malades de l'Alzheimer ou à ceux qui veulent le prévenir? T'es là pour quoi, toi?
C'est une très bonne question. Donc, le docteur Bredesen, depuis 2012, travaille avec des milliers de patients. Puis, avec l'historique qu'ils ont, ils se rendent compte que la personne la plus importante pour mettre en place le protocole, c'est le coach santé. Et c'est pour ça qu'ils forment de plus en plus de gens comme moi pour accompagner la personne. Parce que même si on reçoit un rapport avec des recommandations, c'est difficile pour quelqu'un qui est en bonne santé de mettre en place des changements. Donc, imaginez quand on est déjà en situation de déclin, de faire tous ces changements-là. Donc, c'est étape par étape. Donc, moi, je travaille avec les gens semaine après semaine, en principe sur une période de 6 mois, parce que c'est la durée de temps que ça prend pour vraiment faire un travail efficace puis vraiment faire des changements d'habitude de vie en profondeur. Donc, à chaque semaine, puis l'important, c'est qu'à chaque semaine, on fait un petit pas. Les gens, quand ils viennent me voir, hein, c'est comme au Nouvel An, là, quand on fait une résolution, ils veulent tout changer d'un coup, tout le temps. Puis là, la première semaine, là, ils ont une liste de 28 changements qu'ils veulent faire. Puis là, je leur dis, OK, est belle ta liste, là, on en a pour un an, d'ici là, ou pour 6 mois. On va prioriser, puis on va travailler avec un premier objectif. Fait que là, je les accompagne, évidemment, je réponds à leurs questions, puis on regarde si l'avancement et tout ça.
Si je comprends bien, donc à partir de tous les tests que ces personnes-là ont passés, c'est à même de déterminer c'est quoi les urgences pour ces... Qu'est-ce qui est prioritaire pour ces personnes-là?
Fait que oui, on fait les tests, on fait beaucoup de questionnaires puis de poser des questions. Tu sais, par exemple, quelqu'un est sédentaire ou pas, bien, juste en parlant avec la famille et l'individu, on est capable de savoir. Donc, et avec les médecins et les infirmières, et là, on a un plan d'action. Puis après ça, bien, on met les gens dans l'action, mais vraiment une étape à la fois. C'est itératif. Ce que le docteur Bredesen va nous dire, c'est que c'est important de faire des changements, puis après ça, on voit l'effet sur est-ce qu'il y a une amélioration ou est-ce que le déclin continue. Puis après ça, on continue à rajouter des changements au fur et à mesure.
OK. Qu'est-ce que tu réponds aux sceptiques qui préfèrent le discours fataliste qui nous dit qu'on ne peut pas prévenir ni améliorer l'Alzheimer?
Ben moi, je leur dis toujours que, tu sais, si on se projette dans le futur, dans 1000 ans, est-ce que vous pensez encore qu'on va dire que l'Alzheimer, il n'y a rien à faire? Bon, à date, il n'y a personne qui m'a dit non. Oui, je suis sûre qu'il n'y aura rien à faire. Tout le monde est convaincu, dans le fond d'eux-mêmes, que oui, un jour, la médecine va trouver les solutions pour la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies, là, évidemment. Alors, je leur demande tout le temps pourquoi c'est pas en 2019, pourquoi c'est pas aujourd'hui, pourquoi c'est pas maintenant, pourquoi il faut que ça soit dans le futur, dans ce cas-là.
On est rendu là.
On est rendu là.
C'est merveilleux. En terminant, Patricia, j'aimerais ça que tu nous donnes une piste pour la personne qui nous écoute, qui nous entend, qui commence à remarquer que la mémoire défaille de plus en plus souvent, avoir un peu des pertes. Par où on commence?
On commence par faire une première action. C'est vraiment de se mettre dans la roue de changement puis de changer. Puis avec chaque personne, c'est différent. Allez-y avec quelque chose, la petite action qui vous semble facile à mettre en place. Parce qu'une fois qu'on commence à changer, après, c'est facile de continuer.
Dans les nombreux documentaires que j'ai regardés sur la santé du cerveau, il y en a un, le docteur Amen, qui lui recommandait, il dit, à chaque fois que vous mangez, posez-vous la question, c'est soit bon ou soit mauvais pour votre cerveau. Est-ce que je suis en train de nourrir mon cerveau ou est-ce que je suis en train de lui nuire? C'est simple comme...
Tout à fait. C'est très, très simple. C'est un changement que tout le monde peut mettre en place dès maintenant. Puis qui... Tout à fait. C'est une très bonne question à se poser à chaque
repas. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Comment est-ce qu'on peut faire affaire avec toi?
Bien évidemment, on peut aller sur mon site web qui est www.patriciaspans.com ou me contacter au 514-224-9404 pour avoir une discussion puis voir si vous êtes intéressé à aller plus loin. Ou encore, je donne de nombreuses conférences. Il faut réserver parce qu'elles sont toujours à guichet fermé.
Ben oui, hein, t'es populaire!
Donc, ouais, sur mon site web, tous les horaires des conférences et tout sont partagés.
Bien, c'est un sujet qui est dans l'air du temps, hein, parce qu'avec les baby-boomers qui vieillissent, veut pas, il y en a de plus en plus qui ont peur de ça. Et de savoir qu'on peut faire quelque chose, je trouve que ça donne l'espoir. C'est très « empowering », comme on dit en anglais.
Oui, on se sent, tout à fait. Donc, moi, je me dis toujours, quand je vois tout ça, que l'histoire de ma famille, de mes parents, ben, elle sert à quelque chose. Puis ça me permet de mettre un petit baume sur tout mon historique de ma famille, de voir que ça peut permettre de partager avec la population.
Merci, Patricia.
Rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Je tiens à vous rappeler que l'objectif de cette balado est purement informatif et ne remplace en aucun cas un avis ou un diagnostic d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Si vous souhaitez de l'information supplémentaire, et si vous avez besoin d'aide, je vous invite à chercher une personne pleinement qualifiée qui pourra vous aider. Bonne santé.